Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. De ce fait, nous allons consacrer du temps à l'étude de ce livre pour comprendre le message qu'il nous adresse aujourd'hui.
Nous sommes contents d'accueillir trois invités. Sandra va nous lire le texte biblique pour aujourd'hui. Robert nous fera quelques commentaires sur ce texte afin que nous puissions le comprendre. Et puis Jean-Samuel en tirera quelques leçons pertinentes.
Au début du livre de l'Exode, on rencontre le peuple de Dieu qui vit en Égypte. Il y est opprimé et soumis à l'esclavage. Malgré tout, Dieu continue à le bénir et ce peuple se multiplie. La dernière fois, nous avons appris que le Pharaon s'est senti si menacé par cette nation qui devenait de plus en plus nombreuse qu'il a demandé aux sages-femmes de tuer les nouveau-nés du peuple d'Israël lors des accouchements. Toutefois, ces sages-femmes, très courageusement, ont choisi de désobéir à ces ordres meurtriers. Le récit se poursuit ainsi.
Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de poids et y plaça le petit garçon. Puis, elle déposa la corbeille au milieu des jonques sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Peu après, la fille du Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des jonques et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit « C'est un petit des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite ce petit garçon ?» La fille du Pharaon lui dit « Va ». La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit « Emmène cet enfant-là et allaite-le pour moi, je te paierai un salaire ». La femme prit donc l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, sortit, car, dit-elle, je l'ai sauvé de l'eau.
Vous venez d'écouter la lecture du livre de l'Exode, chapitre 2, les versets 1 à 10. À présent, Robert va nous aider à mieux comprendre ce texte.
Nous venons de lire le récit relatant la naissance de Moïse. Moïse est probablement le personnage le plus important dans l'histoire du peuple d'Israël, et nous découvrirons pourquoi, en progressant dans cette série d'émissions consacrées au livre de l'Exode. Mais brièvement, dès à présent, nous pouvons affirmer que Moïse a été le porte-parole de Dieu auprès du peuple et du Pharaon. Dieu est intervenu par l'intermédiaire de Moïse pour juger le pays d'Égypte et libérer le peuple d'Israël, afin de conclure avec lui une alliance au cœur de laquelle se trouvent les 10 commandements si connus jusqu'à aujourd'hui. Mais revenons sur les circonstances de la naissance de Moïse. Le Pharaon, déterminé à mettre fin à la croissance du peuple de Dieu, décida que tous les fils nouveau-nés du peuple d'Israël devaient être jetés dans le fleuve, le Nil. Ses enfants devaient y mourir, noyés. Que ce soit les tyrans ou les dictateurs de l'Antiquité ou du XXIe siècle, nous constatons à quel point les hommes sont capables de sombrer dans les bas-fonds de la méchanceté, juste pour protéger leur position de pouvoir. Cependant, dans ce contexte très sombre, ce récit nous encourage pour au moins 2 raisons. D'abord, nous y rencontrons le courage de 3 femmes qui osent défier les ordres du Pharaon. La mère de Moïse, sa sœur aînée, et puis, le plus extraordinaire de tout, la fille de Pharaon. Nous pouvons comprendre qu'une mère et une sœur veuillent tout entreprendre pour essayer de protéger la vie d'un fils ou d'un frère. Cependant, pour accomplir ce qu'elles ont réalisé, il faut du courage et de la foi. D'une certaine manière, cette mère a obéi à l'ordre du Pharaon, car elle a abandonné son fils au fleuve. Mais en le plaçant dans une corbeille flottante, et non pas sans protection. Il est difficile d'imaginer avec quel déchirement de cœur elle dut accomplir ce geste, car elle ignorait totalement quel deviendrait l'avenir de son enfant. Il est certain qu'elle n'aurait jamais imaginé que la princesse de la cour royale, en personne, lui en confierait la garde pendant quelques années. Quel retournement d'événements inattendu et béni! Et elle n'aurait jamais retrouvé son fils non plus, si sa fille n'avait pas eu le courage de suivre la petite corbeille pour voir dans quelle direction elle flottait. Et puis quel courage! Une fille d'esclave qui ose parler à une princesse pour lui suggérer de surcroît ce qu'elle devait faire avec ce bébé garçon. Parlons aussi du courage de la fille du Pharaon. Elle devait bien se douter que le bébé dans la corbeille était un garçon du peuple d'Israël. Elle savait très bien ce que son père avait ordonné au sujet de ses nouveau-nés. Et pourtant, elle a eu pitié de ce bébé. Non seulement elle a éprouvé de la compassion pour lui, mais elle a aussi agi pour protéger sa vie et lui assurer par la suite un avenir. Moïse allait pouvoir grandir dans un contexte privilégié. Il mènerait une vie aisée, recevrait une bonne éducation. Moïse a donc été arraché des griffes de la mort pour vivre à la place une enfance protégée et avantagée. Quel retournement de situation ! Et ceci a été rendu possible grâce au courage de trois femmes bien différentes qui osèrent défier les ordres d'un tyran. Ces trois femmes eurent le courage de protéger la vie d'un bébé vulnérable, au risque et au péril de leur propre vie. Par leurs gestes, elles ont défendu les droits des faibles confrontés aux injustices d'un homme autoritaire et méchant. Que leur exemple soit pour nous un encouragement et une source d'inspiration. La deuxième raison pour laquelle ce récit représente un encouragement est celle-ci. Même si le nom de Dieu n'est pas mentionné dans ce texte, nous ne pouvons que conclure qu'il était le Dieu souverain à l'œuvre. Dans la pensée biblique, rien n'est dû au hasard. Ainsi, ce n'est pas une coïncidence si la corbeille où était couché Moïse est tombée entre les mains d'une princesse qui, de surcroît, avait le pouvoir et le désir de le protéger. Dieu demeure le maître des événements. Le pharaon cherchait un moyen pour anéantir le peuple de Dieu. Mais Dieu déjà préparait son secours en protégeant la vie de celui qu'il avait choisi pour libérer le peuple juif. Dieu est tout-puissant et il accomplit toujours ses desseins. Quand Dieu décide d'agir, même les hommes les plus puissants du monde ne peuvent pas l'arrêter. Sur cette note d'espoir, je vous dis au revoir et à la prochaine.
Merci Robert. À présent, Jean-Samuel est de retour parmi nous. Dans un premier temps, il va nous aider à réfléchir sur une question importante qui se dégage dans ce texte. Jean-Samuel, bonjour.
Bonjour Hélène et bonjour à tous. Dans le Nouveau Testament, les écrits des apôtres nous enseignent qu'il faut se soumettre au gouvernement et aux autorités. Par exemple, dans sa lettre à l'église de Rome, Paul écrit « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. » Et ne l'oublions pas, le gouvernement dont Paul parle ici est l'État romain, qui s'opposait parfois avec violence aux églises naissantes. Cependant, dans Exode chapitre 1, nous avons lu que trois femmes défièrent l'autorité du Pharaon. Elles refusèrent de jeter un enfant dans le Nil, où celui-ci devait trouver une mort certaine. Ainsi, nous pouvons nous demander s'il y a des limites à l'obéissance que nous devons à l'État et aux dictateurs tyranniques. Si l'État nous incite à tuer certaines personnes à cause de leur identité tribale, raciale, sexuelle ou religieuse, l'exemple de ces trois femmes courageuses nous suggère que la désobéissance à l'État peut, dans ces cas précis, être à l'ordre du jour. Mais comment résister aux dictats d'un tyran? J'aimerais citer la lettre de Paul aux Romains une fois de plus. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Les disciples de Jésus, les premiers chrétiens, n'ont jamais recommandé le recours à la violence ou à la rébellion pour tenter de renverser un gouvernement tyrannique. Et une fois de plus, l'exemple de ces trois femmes en Exode chapitre 1 est instructif, car elles ont vaincu le mal en accomplissant le bien. Au lieu de devenir les complices d'un projet meurtrier, elles ont protégé la vie d'une personne vulnérable. Mes chers amis, la violence et l'insécurité peuvent brusquement interrompre le cours de notre quotidien. Parfois, l'État en est l'auteur. Parfois, c'est en raison de l'absence de l'État, parce qu'il manque de moyens pour maintenir la paix face à des événements violents. Dans ces circonstances graves, l'exemple de ces trois femmes nous encourage à refuser toute participation à la violence, même si elle semble triompher et régner. Au contraire, ces femmes nous encouragent à faire le bien et à aimer notre prochain. Elles nous exhortent à protéger la vie des personnes faibles et vulnérables, à donner un abri aux victimes de violences, à pourvoir à l'avenir des orphelins. Oui, même dans les pires des circonstances, nos gestes d'amour, même ceux qui semblent parfois ordinaires et banals, peuvent contribuer à vaincre le mal.
Avant de terminer notre émission, Jean-Samuel va nous faire part d'une deuxième leçon importante dans le but de nous encourager.
Le récit concernant la naissance de Moïse me fait penser à un verset, trouvé lui aussi dans la lettre de Paul aux Romains. « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Moïse est né dans le pire des contextes. Fils d'une esclave, il aurait dû mourir. C'était un bébé impuissant, à la merci des caprices d'un dictateur paranoïaque. Il ne pouvait maîtriser les événements. Cependant, Dieu prouva qu'il reste le maître sur toute chose, que le destin de Moïse était entre ses mains, et malgré son départ difficile dans la vie, Dieu a agi dans les coulisses pour arranger un concours d'événements extraordinaires qui allait contribuer non seulement au bien de Moïse, mais aussi au bien d'un peuple entier. Car dû à des circonstances extraordinaires orchestrées par le Dieu souverain, Moïse est arraché de la mort pour trouver une place dans le palais royal, endroit idéal pour le préparer aux grandes responsabilités que Dieu avait l'intention de lui confier. Les plans que Dieu a pour nos vies sont peut-être plus modestes que ceux conçus pour Moïse. Toutefois, même dans nos jours les plus sombres, Dieu demeure le maître souverain. Et lors ses jours éprouvants, il peut nous équiper. Il a le pouvoir de nous préparer pour des ministères et des responsabilités au sein de son peuple, l'Église.
Merci Jean-Samuel pour vos exhortations et vos encouragements enrichissants.
Nos trois invités seront de retour la prochaine fois pour continuer notre étude du livre de l'Exode. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.